Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Bienvenue dans le FC Stream Team, un FC Stream Team de gala avec mon acolyte, évidemment, Maxime Dupuis. Après la victoire des Bleus grâce au
Gegentor.
De Mats Hummels. Ah, les Bleus se sont bien mangés parce que Mats Hummels, il avait fait très très mal en 2014. Vrai. But contre 100 contre Mats Hummels, victoire ici à Munich des Bleus face à l'Allemagne. Alors je vous dis, j'ai cueilli Maxime comme une petite fleur là à la sortie du stade. Il est heureux. J'ai jamais vu ça, il me dit. J'ai l'impression de voir un enfant qui sort de Noël, un enfant le 25 décembre. Voilà. Non, doucement, mec, c'est doucement.
Je me suis dit, mais où il va ?
Eh bien, oui, je sais toujours où je vais. Il faut me faire confiance.
Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent cette émission, sans doute de ce matin, parce que j'imagine que vous l'aurez ce matin, parce que vous êtes sûrement couché. Nous, on est devant le stade. Il est minuit 45, voilà, donc on n'est plus très frais. Mais on a vu des belles choses et. On va quand même parler de cette prestation et moi, je suis pas loin de penser que c'est une des plus grandes prestations de l'équipe de France sous Deschamps, peut-être même la plus grande. Ce sera le premier sujet de ce podcast.
Ensuite, on parlera de la pioche, Paul Pogba, qui a fait un match fantastique, phénoménal. Voilà, et avec ce Paul Pogba-là, le Paul Pogba de la Coupe du Monde, quasiment, cette équipe de France peut aller très, très loin. Et on terminera l'émission en se posant cette question aussi, mais…
Donnez-leur le trophée.
Et qui peut battre cette équipe de France ? Alors, on ne va pas aller trop vite en besogne parce que voilà, s'ils perdent contre la Hongrie, on aura l'air de tomber.
Oui, parce qu'il y a un podcast, on pourra encore écouter.
Voilà, ouais, mais non, on le supprimera. On le supprimera. En tout cas, juste pour vous dire que déjà, on est très contents. Le premier podcast a très bien marché. Ouais. Il a fait une énorme audience, donc on est très contents. Tous les jours, nous serons là avec les Bleus, donc vous pouvez nous écouter tous les jours. Vous pouvez nous voir également sur Facebook. Là, vous allez voir la mine de Maxime. C'est Jacques Séguéla. C'est Jacques Séguéla, on a l'impression qu'il a passé la journée au plein soleil. Donc sa femme n'est pas contente parce qu'il n'a pas mis de crème.
Si, pourtant, j'ai mis de la crème.
C'est une écrevisse. Là, c'est une écrevisse. On a été obligé de mettre la lumière un petit peu jaune parce que sinon, il explosait Facebook. Voilà, donc Maxime est bronzé comme jamais.
D'ailleurs, oui.
Petite marque du maillot.
Sachez qu'avec Facebook, comme vous savez, Facebook suit des algorithmes. Donc vous allez avoir que des pubs pour des crèmes bronzantes pendant 3 jours.
Exactement. Donc il y a le podcast, il y a Facebook et il y a les meilleurs moments de cette émission. Sur le site eurosport.fr, on remercie une nouvelle fois Quentin Guichard qui est à l'habillage et Adrien Yo.
Qui s'est bien aimé.
Ouais. Pourquoi on le remercie ?
Ah, parce qu'il nous attend, non ? Parce que là, il faut dire qu'il nous attend.
Ouais, c'est vrai qu'il nous a attendu très tard.
C'est vrai qu'il
nous
a attendu. C'est lui qui organise tout ça parce que sans lui, là, on n'est pas grand-chose.
Je peux te dire, Galou, elle ne va pas être contente parce qu'il va rentrer tard. Adrien,
mais je crois que d'ailleurs, il a son lit dans le studio.
Exactement. On démarre, Maxime, il est impatient, mais il est impatient, j'ai jamais vu ça.
Moi, j'ai adoré, c'est extatique ce que j'ai vu ce soir, je suis extatique, je veux dire.
Donc, Maxime, rappel des faits pour ceux qui n'ont pas vu le match et qui écoutent ce podcast, peut-être. Alors, l'équipe de France s'est imposée 1-0 ici à Munich et a fait preuve d'une force collective, d'une discipline, d'une exigence incroyable. On a retrouvé les Bleus de 2018, c'était… une masterclass de ces Bleus ici à Munich.
Ouais, parce que quand on parle des Bleus 2018, évidemment, on peut revenir au Sommel. J'ai parlé de cette demi-finale Belgique-France où on avait l'impression d'avoir vu le millésime de cette équipe qui maîtrise, qui, Deschamps nous l'a dit en interview il y a quelques jours sur Eurosport, que même cette équipe était presque descendue trop bas, mais elle était tellement sûre de sa force qu'elle était prête à subir tout ce qu'elle pouvait. Et ben, qu'est-ce qu'on a eu face à l'Allemagne à Munich 3 ans après ? Une version encore améliorée, parce que là, moi, j'ai eu l'impression que les Allemands, sans démériter en plus, parce qu'on ne peut pas dire que les Allemands ont fait un mauvais match,
exactement,
mais qu'ils auraient pu jouer pendant 2 heures, 2 heures et demie sans marquer, parce que ça ne passe pas. J'ai eu l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un rideau qui était franchi, il y avait un mur derrière, et que c'était comme ça pendant 90 minutes. Et c'est d'autant plus formidable que cette équipe, on l'a dit, on avait des doutes sur son ADN. Est-ce que l'ADN des Bleus était le même ? Est-ce que la greffe avec Benzema allait prendre ?
Parce qu'il y avait, on se disait que le centre de gravité avait un peu basculé vers l'offensive, que l'arrivée de Benzema donnait d'autres cartes à cette équipe de France, qu'en plus, avec les trois de devant, Mbappé qui a un peu tendance les tâches défensives, à un peu les oublier. Ce milieu à trois avec un Pogba un peu à droite, un Rabiot un peu à gauche, on avait quelques doutes. Il y avait aussi quelques tensions pendant la semaine. Et là, les Bleus, ils ont montré à quel point les assurances, le matelas de sécurité sur lequel ils se reposent depuis des années, il est toujours là, il est increvable. Et même face à l'Allemagne, même en Allemagne, et même face à une Allemagne que moi j'ai trouvée en plus plutôt convaincante, même si devant Havertz, etc., ils ont été moyens. Mais pourquoi ils ont été moyens? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la clé.
Il y a eu du combat. Ils avaient parlé de mettre ce match sur le plan physique. Ils l'ont fait, mais ils ont trouvé du répondant en face. Enfin, vraiment, moi, je pense que c'est, au niveau de la maîtrise, peut-être la plus grande prestation d'une équipe de France, made in Deschamps. Pour tout le contexte qu'il y a autour, encore une fois, on est en plus, parce que la Belgique, on va dire, oui, mais c'est une demi-finale de Coupe du Monde, c'est dur aussi, mais il y a quand même une équipe qui s'est construite, là, sur le bout, quasiment trois matchs.
Et la grosse différence, c'est que la Belgique a eu un paquet d'occasions, quand même.
Ah oui, oui.
Et
ah
que là, il y en a une, il y a cette frappe de Niabri.
Il y a demi-volée qui rebondit trop tôt.
Voilà, la demi-Niabri, au-delà de ça, souvenez-vous de la première mi-temps de la Belgique face à la France. Lloris, il en sort quelques-unes, sur Hazard notamment, et on trempe jusqu'au bout. Là, finalement,
on a presque l'impression qu'il a rien, j'exagère, mais qu'il n'a rien à faire.
Ouais.
Et c'est incroyable. Et alors, en jouant sur son but comme ça, et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué pendant ce match-là. On est à l'ère du football où il faut jouer à ras de terre, relancer de derrière, etc. Les Français, ils ont refusé ça. Mais qu'est-ce que ça dit aussi? C'est que Lloris, il a allongé pendant tout le match des longs ballons sur les 6 mètres. D'ailleurs, il prenait un temps fou, ça énervait tout le monde parce qu'il peut. En fait, il jouait aussi sur les nerfs des Allemands. Quand vous balancez devant et qu'en plus, il n'y a pas Giroud, il y a quand même 2 chances sur 3 que le ballon revienne. Mais c'était assumé de A à Z. C'est-à-dire, on disait quoi aux Allemands? On dit, allez, venez, il y a la souricière, c'est fermé, venez, 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 mes petits. Et après, on va piquer en contre-attaque. Et ce que l'équipe de France, d'ailleurs, c'est même presque. Je ne vais pas dire miraculé, mais il y a le pénalty qui est un peu sifflé, il y a le but hors-jeu, on n'est pas loin de se dire que ça peut faire 2-0, 3-0, il n'y a rien à dire. C'est vraiment pour moi la plus grosse prestation des Bleus sur ce plan-là.
Et le but refusé à Mbappé aussi.
Et le but refusé à Mbappé.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un paquet de. Alors qu'on a un ami qui passe derrière.
Bonjour, bonne soirée. Bon, c'est les aléas du direct, donc quand vous écouterez le podcast, vous ne comprendrez pas, mais il y a quelqu'un qui est passé derrière nous et qui nous a dit bonjour, car il reste encore 2 ou 3 personnes ici, on n'est pas tout seul.
On n'est pas tout seul, mais on ne va pas tarder à être tout seul. Là, d'ailleurs, tu connais le chemin ou pas? Tu
prendras
la main?
Ouais,
parce que là, il fait noir.
Là, il fait noir, il n'y a personne.
Il n'y a personne, donc là, j'ai très très peur. On passe à Paul Pogba peut-être?
Ouais, Maxime. Paul Pogba, époustouflant, tu lui as mis la meilleure note des Bleus, il me semble.
J'ai mis 8,5. Voilà, allez voir les notes d'ailleurs sur le site de
l'Euroscore. Tant qu'à faire. Pogba, j'ai envie de faire le parallèle avec la Coupe du Monde 2018, où on l'avait trouvé exceptionnel dans un rôle assez épuré finalement, qui était loin de ce qu'il fait. Là, il n'a plus besoin d'être épuré, parce qu'il est au-dessus de la mêlée, il fait ce qu'il veut. Et c'est ce soir, voilà, c'est la masterclass absolue.
En première période, vraiment, j'ai vu 21 joueurs sur la pelouse et j'ai vu Paul Pogba au-dessus. Vraiment, la première période de Paul Pogba méritait plus que 8,5. Alors après, c'est vrai qu'il a été dans un rôle un peu plus obscur. Mais bon, déjà, le but, c'est, allez, on va dire, à 60% pour lui.
Il renverse le jeu.
Alors, cette ouverture de l'extérieur du pied, je pense que sur 100 joueurs, il y en a 10 qui la tentent, mais il n'y en a qu'un qui l'a réussi, c'est Pogba. Alors évidemment, il y a l'appel d'Hernandez qui le réclame, qui le demande. Malgré tout, cette ouverture, elle est absolument exceptionnelle. Et là, Paul Pogba, il est, et c'est ce que dit Deschamps dans sa conférence de presse, cette équipe de France, elle est dans l'efficacité. Pogba, il est dans l'efficacité de A à Z, dans la récupération. Alors parfois, ça prend des allures de dribble, de choses un peu plus flamboyantes, mais il est toujours dans l'efficacité. Alors si la talonnade, si ça nécessite une talonnade, ce sera une talonnade. Il fait un moment aussi une ouverture de 40 mètres pour Benzema sur la poitrine. Tout était parfait.
Là ouais, c'est ça. C'est le. J'ai envie de dire, on aurait le même Pogba il y a 6 ans avec ses dribbles, des fois qui partent un peu dans tous les sens, ça marche pas. On dirait il en fait trop. Sauf que là, non, il y a rien acheté. C'est ça qui est terrible. J'irais ce soir.
Il y a
soir,
une fin de match un peu plus neutre.
Peut-être qu'il perd un peu sur le ballon pour Mbappé.
Exactement.
Sur le hors-jeu. Voilà. Là, mais bon, il faut bien lui excuser ça. Parce qu'il faut aussi penser. Il y a un truc qu'on ne dit jamais, c'est-à-dire qu'on arrive en fin de match. Quand on fait un match comme ça défensivement, qu'on doit tenir 11 Allemands en face, on est un peu moins lucide. Et évidemment, des fois, il y a des petites erreurs techniques qu'on ne ferait pas en début de match. Mais encore une fois, Paul Pogba, c'est une masterclass absolue. C'est la différence. Alors, par exemple, Kylian Mbappé, il y a 2-3 fois où je me dis, garde un peu le ballon, peut-être qu'il aurait pu la lâcher. C'était des trucs qu'on pouvait se dire à l'époque avec Pogba, se dire, là, pourquoi il ne l'a pas lâché plus tôt? ben là, il est juste dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, s'il faut lâcher le ballon tout de suite, s'il faut jouer long, s'il faut raccourcir, s'il faut dribbler, il fait tout bien.
Et c'est paradoxalement, quand on parle le moins de lui, quand il fait moins la une, parce que là, il y en a que... dans cette préparation, il n'y en a que pour Mbappé, Benzema, un peu de Griezmann, un peu de Giroud, et beaucoup de Kanté aussi. On parle de Kanté, Ballon d'Or, etc. Et c'est paradoxalement, quand on parle le moins de lui, bah, qu'il est le meilleur, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, Paul Pogba, c'était le meilleur joueur de cette équipe de France. Au Mondial 2018, c'est pas loin d'être... Je crois que quand on avait fait les notes,
c'est lui qui était le meilleur,
globale, la moyenne de toute la Coupe du Monde, c'était lui le meilleur. Donc aujourd'hui, il faut se rendre compte du chemin parcouru par Paul Pogba depuis 2013, c'est
ça ? Oui, 2013.
En 8 ans, on est passé d'un petit jeune plein de talent, mais qui en faisait gros, qui en faisait beaucoup trop, à celui qui dirige les opérations après, en étant sobre et en étant efficace.
Après, il n'y a pas de hasard. Génération 93, il a 28 ans. Mm. Généralement, il rentre dans son prime. Bah, peut-être qu'on s'est dit à un moment, il fallait gommer tout ça. Mais c'est vrai que là, c'est niveau de Paul Pogba, c'est exceptionnel. Il y a quelque chose de formidable. Quand tu l'as eu à Clairefontaine avant la compétition, tu lui as demandé est-ce que c'est une équipe de All-Star. Et bien là, quand je vois ça, ce que je vois ce soir, j'ai vraiment cette impression-là dans le sens All-Star basket, NBA, où vous avez une équipe où il y a des stars. Et à chaque match, il y en avait un qui va élever son niveau, qui va vous mettre 40 points, qui va faire une masterclass. Et les autres peuvent se permettre d'être un peu moins bons parce qu'il y a tellement de talent que tout se compense à la fin. Et je ne serais pas étonné que contre la Hongrie, on voit par exemple un grand Griezmann et peut-être Pogba un peu plus en retrait.
Exactement, parce que la baisse d'influence de Griezmann a été compensée par justement la prise d'initiative de Pogba. Et en fait, c'est un jeu d'équilibre. Mm. Et l'équipe de France, c'est pour ça qu'elle s'en sort toujours. C'est parce que, tu le dis très bien, quand aujourd'hui, on a moins vu Griezmann dans le jeu. Ouais, assez nettement. On l'a vu dans le combat. C'est Pogba qui a dit « Ok, bah, Antoine, t'es un peu moins bien. Bah, c'est moi qui vais prendre le jeu à mon compte et c'est moi qui vais distribuer les caviars. » Et ça a marché. Voilà, tout simplement. On termine avec le troisième sujet.
On va terminer, ouais. Bah oui.
La question qu'on peut se poser après cette démonstration de l'équipe de France à Munich, la question qui se pose, c'est aujourd'hui, est-ce que cette équipe de France est injouable, est imbattable ? Qui peut venir à bout de cette équipe de France ?
Ah, c'est une bonne question, voilà, tout simplement.
Merci,
j'ai l'impression que non, mais c'est. Alors évidemment, on tire des plans sur la comète et on n'est qu'au premier match et que le 11 juillet, il est encore loin et qu'on ne gagne pas un euro comme ça, les doigts dans le nez. N'empêche que, encore une fois, cette ouverture face à l'Allemagne, face à une bonne équipe d'Allemagne, il faut le répéter, ce n'était pas l'Allemagne qui perd contre la Macédoine du Nord, ce n'était pas une petite Allemagne, c'est une très bonne Allemagne, mais qui est tombée sur une excellente équipe de France. Et on a l'impression, alors je ne sais pas si le tournoi va se dérouler comme ça, mais ça va être 7 matchs où les adversaires vont tomber sur un mur. Non, ça ne va pas être ça, parce que déjà, contre la Hongrie, l'équipe de France va devoir faire un peu plus de jeux et ça va donner autre chose. Et c'est vrai qu'on peut se demander aujourd'hui, on a vu un peu Hongrie-Portugal, sur le premier tour déjà, on a du mal à imaginer que cette équipe de France termine avec une défaite, hormis si elle est déjà qualifiée après le deuxième match, qui est aussi plausible, qu'elle fasse tourner pour faire jouer les coiffeurs. Mais vraiment, voilà. Et sur ce début d'Euro, en plus, on ne peut pas dire qu'il y a une équipe qui est impressionnée, on va dire. L'Italie qui a fait son bon match.
Ouais.
Les Belges, encore une fois, là…
Mais tu ne peux pas comparer la Turquie à l'Allemagne, quand même, en termes d'opposition.
Ouais. Mais sinon, les Belges qu'on retrouverait, je crois, si tout se passe normalement, en demi-finale à Wembley.
Ça serait fantastique. Ah,
voilà, ce serait exceptionnel, l'histoire, elle est là. Mais c'est vrai que c'est… Là, aujourd'hui, je pense qu'il faudra voir les réactions européennes demain matin, dans la presse. Je pense que ça va être un raz-de-marée. Il y avait déjà le raz-de-marée avant, parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est qu'avant la compétition, c'était les promesses et ceci,
voilà,
cela.
Il dit tout. Moi, c'est ce que je veux. Non, mais moi, je vais rebondir là-dessus.
Vas-y.
Non, mais voilà, c'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, ils sont venus. Ils ont dit, on est les meilleurs. On a la meilleure équipe du monde. On a la meilleure attaque du monde. On est les meilleurs. On est champion du monde. Et donc, tout tournait autour de, est-ce qu'il n'y a pas un excès de confiance ? Est-ce que ça ne va pas s'effriter tout de suite ? Avec Maxime, on envisageait un gadin ici. Et s'il y avait eu un vrai gadin à Munich, honnêtement, ça aurait pu très mal tourner. Mais on ne l'a jamais envisagé, ce gadin. Allez, peut-être les 10 premières minutes où ça commençait à partir en corrida et où tu te disais, bon, alors là, ça part peut-être un peu fort pour l'Allemagne. Ça a duré 10 minutes. Et derrière, tu sens qu'il n'y a pas l'once d'un doute. Il n'y a pas le début d'une fissure dans l'armure. Tu ne vois pas un point où ça pourrait basculer. Alors si... Moi, j'en vois une blessure, une suspension, parce qu'il y a des joueurs qui sont fondamentaux. Si tu mets Koundé à la place de Varane, si tu mets, Ben Yedder à la place de Griezmann, voilà. Mais tant que l'épine dorsale de cette équipe demeure, c'est vrai que c'est difficile.
Il y a un truc qui est notable ce soir dans le match face à l'Allemagne, c'est que Didier Deschamps procède à son premier changement à la 87e
minute. Ça, ça dit tout.
À un moment, je me suis dit, j'ai réfléchi, je me dis,
C'est ça,
tiens,
du coup.
C'est bizarre, ils sont tous là encore. Je regarde le chrono dans le stade et je vois 86e et justement, Benzema sort juste derrière. Donc, son dispositif était tellement parfait et que ça marchait tellement bien qu'il n'a pas pris de risque de changer les joueurs. Ça dit quoi aussi ? C'est que physiquement, les mecs, ils sont à fond. Benzema, il y avait sa béquille. Il a rejoué. Bon, une béquille, encore une fois, ce n'est pas le truc le plus grave. Mais n'empêche, il aurait pu dire, allez, je te mets de côté, on va faire rentrer Tolisso. En plus, on en siffle le milieu de terrain. Rabiot, sa cheville. Ça passe tout seul.
Hernandez et Pavard qui se prennent deux tampons, mais Maxime aurait fini aux urgences.
Ah oui, là.
Voilà. Eux, ils reviennent, tranquille, c'est des robots. Les mecs, ce sont des robots. Donc, honnêtement, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas là, on ne voit pas ce qui pourrait faire derrière.
Et puis, de toute façon, on prend le huitième de finale. Ce serait, si termine premier, ce serait un troisième. Vu la tronche de 7 euros, un troisième, a priori, ce ne sera pas un très gros, donc ça doit passer. Ça sera un peu plus dur en quart, mais voilà, c'est peut-être le premier hic potentiel qu'on imagine au vu de ce qu'on a vu dès le début. C'est une demi-finale potentielle face à la Belgique.
Et ce qui est nouveau aussi avec cette équipe de France, c'est que, mais je pense que ça vient de l'identité de l'adversaire, c'est que chaque début de tournoi, bon, alors, si Coupe du Monde 2014, Honduras, ça se passe bien, mais ce n'est pas vraiment l'équipe de Deschamps telle qu'on l'imagine. L'Euro, la Roumanie, ça passe d'un cheveu. L'Australie, ça passe d'un cheveu. Et là, on a masterclass tout de suite. C'est comme si, moi, ma théorie, c'est que cette équipe, elle s'est construite pendant la Coupe du Monde, qu'il y a eu un point de bascule Argentine 2018 et qu'on est encore derrière ce point de bascule et qu'on est dans cette continuité-là. Et que du coup, eh ben, il n'y a pas besoin d'une mise en route, il n'y a pas besoin de rodage. Et c'est pour ça qu'on est tout de suite très, très bon, ce qui n'était ni le cas en 2016 et encore moins en 2018.
Et puis, à dessein, ce soir, avec l'anti-sèche, moi, j'ai titré de Moscou à Munich, parce que le fil, il est là, tout simplement. C'est tout ce qui se passe entre-temps. Il y a 3 ans, alors je sais que ça grogne souvent, on s'ennuie, ceci, cela, mais c'est quand même pas de leur faute s'ils jouent aussi des adversaires qui sont moins forts, ou si les joueurs ne se motivent pas au niveau de ce qu'il faudrait, parce qu'ils ont leur carrière en club, parce qu'il y a des choses à faire à côté, et parce que quand on est champion du monde, qu'on a des exigences aussi élevées, c'est pas toujours facile d'être à fond tout le temps. Là, la meilleure preuve qu'on a eue, c'est ce qui s'est passé, encore une fois, ce soir. J'ai même lu sur les réseaux sociaux que certains disaient qu'elle avait été mise en danger, etc. Mais non, elle a été mise sous pression, mais la pression, elle a vite dégonflé. Donc, encore une fois, c'est une masterclass absolue. Moi, j'ai hâte vraiment d'être dimanche pour le match. C'est dimanche, je vous dis ça. Le match face à la Hongrie.
Samedi, non ?
Non, c'est dimanche. Oh, je suis perdu. Je sais plus. En plein cagnard, en plus. Dimanche ?
Samedi. Non, c'est dimanche. Si, c'est samedi. C'est samedi.
Non, c'est dimanche.
Voilà. Non, c'est samedi. Ouais, c'est samedi.
Pour tout vous dire, c'est Adrien qui nous l'a dit. Heureusement qu'il nous le dit, parce que moi, je me serais pointé dimanche au stade.
Ah ouais, bah. Ça aurait été compliqué. On termine avec mon petit pronos,
c'est la
minute. Sachant que, voilà. Donc là, on va remettre tout de suite l'église au milieu du village. J'ai repris largement la tête sur Maxime. Qui, là, vous fait ? Ouais, mais moi, je le savais, certitude, machin. Je savais avec les bleus de Didier Deschamps, machin. Ouais, t'avais pronostiqué quoi ?
Ah ben, partout.
Voilà, j'ai le pronostic et quoi ?
0-0 ?
Non, victoire des Bleus. 2-1, ouais. Voilà. Donc là, je prends les devants.
Bon.
Maxime, tu ne me reverras plus. Enfin, tu me reverras. Ouais. Là, profites-en, tu me vois dans le rétroviseur. Je te fais un petit coucou.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que le numéro 1 de la Ligue s'appelle Pablo G et qu'il a 597 points, soit 504 points de plus que moi. Donc, ça va être compliqué, mais il paraît qu'il est, professionnel, Pablo.
Donc là, Maxime, devant lui, il y a qui ? On répète, il y a sa femme, sa fille, il y a moi, il y a Adrien, il y a tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde.
Non, ma femme est plus devant moi.
Il y a tout le monde.
En revanche, ma fille est toujours devant moi. C'est embêtant parce que ma fille…
Donc, les pronos pour demain, du coup, Maxime.
Voilà, et tiens, Gauthier qui me dit ne jamais douter de la France, Maxime, jamais.
Voilà. Mais c'est bien fait, c'est une leçon.
Voilà, ouais, c'est une leçon.
Voilà. On fait les pronos pour demain, Maxime ?
Eh ben, c'est parti, on y va.
Alors, rappelle-nous les affiches pour demain.
Apprends-nous les affiches.
Rappelle-nous.
Allez, groupe B, donc c'est le retour du groupe B avec à 15h un petit Finlande-Russie. Il n'y a pas piqué des hannetons.
C'est compliqué le Finlande-Russie.
C'est compliqué.
C'est compliqué. Ah, de toute façon, vous savez qu'il faut écouter dans le duo. Donc, moi, je vais quand même mettre un petit 1-0 Russie.
Ok. Moi, je mets 2-1 Finlande et je double.
Il est obligé parce que tu sais que sinon, il est foutu.
Et je mets le bonus x2 sur la Finlande qui bat la Russie.
Après, il va nous sortir la Macédoine du Nord qui va gagner l'euro. Hein. Je vous le dis dans… c'est demain, je crois. Après-midi. Ensuite.
Turquie, Pays de Galles.
La Turquie, c'était vraiment minable le premier match. C'est peut-être l'équipe qui m'a le plus déçu. Je mets un petit 1-0 Turquie. Allez.
Tiens, Turquie, moi, 2-1 Turquie. Voilà. Voilà. Ça vaut 23 points, bon, et voire 46 en cas de bon résultat.
Et donc, on a l'Italie ?
Et le soir, l'Italie. Italie-Suisse à Rome à 21h.
Un partout.
Ah ouais. Bah moi, je donne 1-0 Italie.
Ok. Bah voilà, vous savez, si vous voulez faire des beaux cadeaux à Noël, suivez mes conseils.
C'est vrai que le Finlande, là, j'y pense, le Finlande-Russie de 1, il est quand même risqué. En plus, je crois que c'est à Saint-Pétersbourg.
Maxime,
Finlande-Russie, c'est, il y a quand même une petite rivalité historique.
Cela dit, Saint-Pétersbourg, c'est juste à côté de la Russie.
Oui, voilà, mais il y a cette rivalité historique, mais.
Ouais, non, mais je reste là-dessus.
Ah oui, attention, je
double. Et puis tu doubles. Tu doubles.
Je touche plus.
Ah, il double. Ah, il double. Donc là, c'est tu joues. Ton euro demain sur Finlande-Russie. Ah, c'est du tout doux.
Moi, quand je mets les scores, à bon entendeur, je ne les change pas après. Bon. À bon entendeur.
Mais moi non plus, hein. Je ne les change pas. Moi non plus, je ne les change pas.
Espagne-Suède.
Espagne-Suède, non, 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 je ne vais pas changer, Maxime. Non, 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 je change pas.
T'es moi, passé de 0-0, un partout, un 0-0.
Ouais, mais je change le score, je ne change pas l'issue du match. Ah ouais. Voilà, je suis droit dans mes bottes. Et d'ailleurs, j'ai trouvé le match nul, alors que toi, tu disais victoire de la Suède.
1-0
de l'Espagne. Espagne. Je vois qu'Adrien commence à avoir les cernes qui se creusent. Voilà, ouais. Donc, on va dire au revoir à tout le monde. On se donne rendez-vous demain, enfin tout à l'heure en fait.
Ouais, en fin d'après-midi, on fera une nouvelle émission parce que demain, c'est un peu compliqué. Mais on sera là demain, quoi qu'il arrive. Vous aurez votre podcast à un moment de la journée, on ne sait pas quand, mais vous l'aurez.
Exactement. Donc, on se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du FC Stream Team. En attendant, bah, savourez ce podcast, savourez les vidéos. Merci Adrien. Merci Quentin. Et à demain. Ciao, salut. Ciao.